Je vais vous lire ce matin un texte du livre des rois, du deuxième livre des rois, plutôt. Nous verrons affiché sur l'écran trois versets, mais je vais vous lire quand même le contexte. Je pense que c'est utile que je commence ma lecture un peu avant. Donc je lis en 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 8. Le roi d'Aram était en guerre contre Israël. Il tint conseil avec les gens de sa cour et il dit « J'établirai mon campement à tel et tel endroit. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer par ce lieu. » L'homme de Dieu, c'était Élisée. « Garde-toi de passer par ce lieu. Les Araméens y descendent. » Alors le roi d'Israël envoya des gens à l'endroit que l'homme de Dieu lui avait indiqué pour y monter la garde. Cela se produisit plusieurs fois. Le roi d'Aram eut le cœur troublé par cette affaire. Il appela les gens de sa cour et il leur dit « Ne me direz-vous pas qui, parmi les nôtres, travaille pour le roi d'Israël ?» L'un d'eux répondit « Personne, ô roi. » C'est Élisée, le prophète qui est en Israël, qui rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Le roi dit, « Allez voir où il est et je l'enverrai prendre. » On vint lui dire, « Il est à Dothan. » Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et encerclèrent la ville. Verset 15, il est écrit « L'auxiliaire de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Une troupe cernait la ville avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à l'homme de Dieu « Ah, maître, comment ferons-nous » Il répondit « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria « Seigneur, ouvre ses yeux, je t'en prie, pour qu'il voie. » Le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur et il vit. La montagne était pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Et ce dernier verset, les Araméens descendirent vers Élisée. Celui-ci pria le Seigneur en disant « « Frappe cette troupe de cécité, je t'en prie. » Il les frappa de cécité, selon les paroles d'Élisée. Il nous arrive parfois de nous demander comment vivre une vie chrétienne victorieuse. Nous regardons tout autour de nous. Et nous sommes effrayés par ce qui nous entoure, un peu comme le serviteur d'Élisée. Nous regardons le monde et nous voyons beaucoup de choses qui nous gênent et qui nous distraient. Nous regardons l'Église et nous voyons beaucoup de choses qui nous dérangent. Nous regardons notre vie et nous sommes effrayés, déprimés et anxieux. Nous avons cru ce que l'on nous avait dit, nous avons eu confiance en ceux qui nous avaient parlé et nous avons entendu beaucoup de fausses paroles, de faux enseignants et bien sûr de faux enseignements. Ah Seigneur, comment ferons-nous? De notre point de vue, toutes ces choses semblent représenter des problèmes énormes. Nous semblons nous enfoncer sous le poids de tant de pesants fardeaux et de choses contradictoires. Et nous nous demandons s'il ne risque pas de nous engloutir et de nous submerger. Quand nous regardons aux faits, il nous arrive d'être sans espoir, dépassés par le nombre et entourés de toutes parts. Malgré tout, la victoire est possible. Il y a un secret. Et ce secret, c'est de voir. Si nous sommes capables de voir, nous serons vainqueurs. Et c'est pour ça que nous entamons cette semaine une série de messages sur la vision qui sera notre recherche pour cette année. Si nous sommes capables de voir, nous serons vainqueurs. La vie suit la vue. Nous ne pouvons pas vivre comme des vainqueurs sans comprendre cela. Mais une fois que nous l'avons compris, il nous reste à le vivre. Alors le problème n'est pas là dehors, le problème ce n'est pas cette grande foule qui nous entoure et nous ignore ou nous combat. Nous aimerions bien sûr en faire le problème, ce serait peut-être plus simple. L'important ce n'est pas la taille de l'armée qui est tout autour de nous, ce n'est jamais la taille de l'adversaire qui a été un problème dans les combats du peuple de Dieu. Se confier d'ailleurs dans le nombre de chars et de chevaux n'a jamais été un gage de victoire pour le peuple de Dieu, bien au contraire. À la limite, quand vous êtes disciple du Seigneur, vous n'avez pas besoin de savoir ce que l'ennemi fait dans votre vie. Parce que le plus important, c'est de savoir ce que vous voyez, c'est de discerner ce que vous voyez. Peu importe les circonstances que vous vivez, quand vous regardez de l'endroit où vous êtes, que voyez-vous ? La plupart des gens se voient environnés, attaqués par un ennemi. C'est pour cela qu'ils vivent leur vie dans le désespoir, dans la peur, dans la crainte de ce qui va arriver. Ils voient le diable partout où ils regardent. En un sens, ils ont raison, parce qu'ils vivent dans le monde, bien sûr, comme chacun d'entre nous. Mais la parole de Dieu dit que nous ne sommes pas du monde. Même si nous vivons dans le monde, nous vivons tous dans le monde. Alors certains sont remplis d'histoires, ils débordent d'histoires sur ce que fait le diable ou ce qu'il est supposé faire, ils en sont préoccupés, mais les vainqueurs regardent autour d'eux et ils voient quelque chose de différent. Ils ne voient pas ce que les autres voient. Et c'est pour cela qu'ils sont vainqueurs, parce qu'ils se rendent compte de la réalité. Et la réalité, c'est quoi ? Être vainqueur, c'est quoi ? Eh bien, le vainqueur ne nie pas l'existence de l'ennemi. Nous ne vaincrons pas en prétendant que nous ne sommes pas réellement cernés. Nier l'existence de l'adversaire ne le fera pas disparaître devant nous. Et nous n'encouragerons personne en prétendant que tout va bien et que les problèmes auxquels chacun fait face ne sont pas réels. C'est vrai. Toutefois, il ne faut pas oublier que la victoire de Jésus à la croix sur le mont Golgotha n'est pas une vue de l'esprit. Notre imagination n'y est pour rien. Il s'agit d'un événement. Il s'agit d'un fait. Nous pouvons regarder à l'ennemi. Nous pouvons l'étudier. Nous pouvons fonder tout un mouvement sur les différentes manières de le combattre. Mais quand nous regardons depuis la montagne, que voyons-nous ? La différence entre ceux qui sont vainqueurs et ceux qui sont vaincus ne réside pas dans leur habileté à combattre, ce qui est le mieux pour la plupart d'entre nous, mais réside dans leur habileté à voir la réalité. Et celui qui est leur soutien. Et cette vue ne vient pas d'eux-mêmes, mais de Dieu. Alors le serviteur d'Élisée sort de bon matin, il voit une grande armée prête à les attaquer, il s'écrie « Ah, maître, comment ferons-nous » Et Élisée sort à son tour, il voit une grande armée et il dit « Ne crains point ». Quel contraste ! Énorme. Entre ces deux phrases, il semble que partout les gens crient « Quel malheur ! Que ferons-nous ? Où irons-nous ? Que va-t-il advenir de nous ?» Où sont ceux qui peuvent dire « Ne crains point ?» Vous comprenez bien que quand ils se sont levés de bon matin, le paysage devant eux deux, c'était le même. Les deux hommes étaient face à la même armée. Ils étaient face aux mêmes circonstances, mais un homme a soupiré « Ah, maître !» et un autre a dit « Ne crains point !» Comment se fait-il que deux personnes, alors, qui sont confrontées exactement à la même situation, peuvent arriver à deux conclusions complètement différentes, et je dirais même diamétralement opposées ? La différence se situe forcément dans ce qu'elle voit quand elle regarde la même chose. Vérité de la palisse, presque. Vous pouvez penser en ce moment même que je présente les choses comme étant peut-être trop faciles. Et vous pourriez me dire, mais vous ne comprenez pas la situation que je traverse. Oui, c'est vrai. Il est même possible que personne ne puisse comprendre ce par quoi vous passez, et moi pas plus que les autres. Et peut-être ne comprendrez-vous jamais ce par quoi je passe. Mais là n'est pas l'important. Ce qui compte, c'est peut-être davantage, est-ce que oui ou non nos yeux sont ouverts ? Passons-nous notre temps à étudier le problème alors que la solution est là, évidente, devant nos yeux. Et je ne peux rien vous offrir de plus que ce que Élisée a offert lui-même à son serviteur, c'est-à-dire une vision claire. Seigneur, ouvre ses yeux, je t'en prie, pour qu'il voie. C'est la parole d'Élisée en faveur de son serviteur. La différence est simplement là. Certaines personnes ont leurs yeux ouverts pour voir et d'autres non. Alors le premier groupe se lamente, « Ah, maître, comment ferons-nous » alors que le second groupe dit, « Ne crains point ». Ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas une critique, c'est juste des faits. Chacun d'entre nous est aveugle jusqu'à ce que quelqu'un prie, « Seigneur, ouvre ses yeux ». Nous ne sommes pas seuls dans le voyage. Nous avons besoin des autres. C'est encore une preuve que nous voyons à travers ce texte. Le serviteur d'Élisée a eu besoin de son maître, comme en d'autres circonstances, par exemple, David a eu besoin de Nathan pour lui ouvrir les yeux sur son péché, adultère et meurtre. Oui, nous avons besoin des autres pour nous apporter la lumière de Dieu. Alors vivre son épreuve tout seul de son côté, ce n'est pas un signe d'humilité, c'est encore moins un gage de réussite. Nous avons besoin des autres. Laisser l'autre seul dans son épreuve, c'est aussi le laisser s'approcher du trou sans l'avertir qu'il pourrait chuter. Un jour, nous verrons tous, et nous attendons ce jour où tout sera clair à nos yeux, j'entends où tout sera clair à notre intelligence. Alors que devons-nous faire ? Combien de temps cela prend-il ? Ce n'est pas une question de croissance spirituelle, de maturité, de sagesse ou de don. La vision du serviteur d'Élisée ne s'est pas éclaircie petit à petit. Il n'a pas étudié la situation pendant plusieurs mois pour finalement trouver, découvrir, un peu comme Géo trouve tout, la solution. Pas du tout. Non, à un moment donné, ses yeux étaient fermés. Et le moment d'après, ils étaient ouverts. Soit vos yeux ont été ouverts, soit ils ne l'ont pas été. S'ils sont ouverts, alors vous pouvez prier pour que le Seigneur ouvre aussi les yeux des autres. S'ils sont fermés, vous pouvez prier pour que vos yeux s'ouvrent. Et d'autres que vous peuvent prier aussi pour que vos yeux s'ouvrent. Que faut-il faire pour recevoir cette grande révélation de Christ ? Rappelons-nous que cette révélation, ça ne sera pas une récompense pour tous nos grands efforts. Quand les yeux de quelqu'un s'ouvrent, c'est une action de grâce. C'est un acte de la grâce, plutôt. Seul Dieu peut le faire. Et il le fera si seulement nous le lui demandons. Même si, selon vous, tout cela est un peu trop facile, je n'ose pas le rendre quand même plus compliqué ce matin. Quand les yeux du serviteur ont été ouverts, il a vu ce qu'Élisée avait vu. Quand Élisée a dit « Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux », eh bien, cela a pu paraître bien étrange aux oreilles du serviteur qui entendait ces paroles d'Élisée. Pour comprendre, les seules paroles ne suffisent pas. Les yeux doivent être ouverts. Si les mots étaient suffisants, Élisée n'aurait même pas eu besoin de prier pour que les yeux de son serviteur soit ouvert. Le serviteur aurait dit à Élisée, « Oui, tu as raison, Élisée, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux, et donc contre nous. » Mais voilà, ce n'est pas ce que le serviteur a vu, ce n'est pas non plus ce que le serviteur a dit. Nous devrions peut-être prendre plus de temps pour prier que Dieu nous ouvre les yeux. Quand nos yeux seront ouverts, les paroles prendront tout leur sens. Mais jusque-là, les paroles entendues n'ont pas de sens. Elles ne sont pas compréhensibles. Nous savons qu'elles signifient quelque chose, mais nous n'en connaissons pas le sens. Voir pendant 30 secondes a plus de valeur que 30 années passées à étudier et à écouter. 5 paroles données par révélation valent plus que 10 000 paroles venant de la chair et du sang. Le témoignage suit la révélation, et le témoignage consiste en ce que nous avons vu et entendu, et pas en ce que nous pensons savoir, comme le serviteur au début, mais en ce que nous savons savoir, si vous me permettez, comme Élisée lui-même. Et nous savons quand nous pouvons dire « Maintenant, je peux le voir ». Un peu d'ailleurs comme Job qui disait « J'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu ». Bien sûr, nous ne voulons pas dire que nous avons réellement eu une vision, mais ce qui nous était caché auparavant nous est maintenant connu. Le Saint-Esprit conduit chaque disciple dans toute la vérité. Élisée n'a pas débattu avec son serviteur, il n'a pas essayé de le convaincre, il a juste prié que Dieu ouvre ses yeux. Alors quel soulagement de savoir que mon devoir ce n'est pas de défendre ma foi, ou de convaincre qui que ce soit de ce que je crois être vrai, mais je peux prier pour que des yeux s'ouvrent et Dieu se révélera. C'est tellement mieux ainsi. J'aimerais aussi que nous voyons que dans ce cas précis, Élisée n'a pas prié pour la protection. Il n'a pas prié même pour la victoire. Il n'a pas demandé à Dieu de leur donner des armes spécifiques. Pourquoi ? Parce qu'il a vu qu'il était déjà entouré de chariots de feu et d'une armée céleste. Eh bien, quand la victoire est déjà nôtre, nous n'avons pas besoin de prier pour la victoire. Ce serait comme essayer de rentrer dans une pièce dans laquelle je me trouve déjà. C'est assez paradoxal quand même. Non, si la victoire est mienne, alors tout ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir les yeux ouverts pour la reconnaître. Si je l'ai déjà obtenue, je n'ai pas besoin de la rechercher. Élisée voyait différemment, et c'est pour cela qu'il pensait, qu'il parlait, qu'il se comportait différemment. Nous essayons si souvent d'adopter une certaine façon de penser, de parler ou d'agir, dans l'espoir d'être victorieux. Mais si c'est là votre intention, alors vous avez déjà perdu. Si la victoire repose sur quelque chose que vous devez faire, alors vous ne serez jamais capable d'en faire assez. Agir spirituellement ne produit pas la victoire, parce que la victoire, ce n'est pas ce que je fais ou ce que je ne fais pas. La victoire, c'est le Christ. Et à nous, qui sommes le corps de Christ, il nous est dit, « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde ». Élisée a dit quelque chose de similaire à son serviteur, si vous voulez bien le voir, le reconnaître. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. La situation est la même. L'apôtre Jean dit beaucoup de choses à propos de l'Antichrist, des fausses doctrines, des faux enseignants. Il voit, lui, que l'Église est environnée d'une grande meute de loups qui veulent pénétrer au sein du troupeau et qui veulent le réduire en pièces. Mais il voit aussi, tout comme Élisée, que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jean, l'apôtre, déclare que quel que soit ce qui s'attaque à nous, celui qui est en nous est plus grand que cette chose. Peu importe ce que nous ressentons, ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que les gens disent, ce que le diable a fait. Peu importe que Lazare soit mort depuis 4 jours et qu'il commence à sentir mauvais. Peu importe que la jeune fille soit morte avant que Jésus puisse aller la voir. Peu importe que les vagues soient sur le point de faire chavirer le bateau. Peu importe que Paul soit lapidé et laissé pour mort. Lazare ressuscitera. La fille reviendra à la vie. La tempête se calmera et Paul prêchera à nouveau. Nous n'avons un problème que lorsque nous voyons toutes les choses comme plus grandes et Christ comme plus petit. Rappelez-vous justement, ce sera mes derniers mots, la différence entre « Ah, maître, comment ferons-nous » et cette autre phrase d'Élisée qui dit « Ne crains point ». Eh bien, cette différence est dans le fait d'avoir les yeux ouverts. La victoire réside dans la vision joyeuse et certainement pas dans la lamentation. Quand nous regardons, que voyons-nous ? Puisse le Seigneur ouvrir nos yeux pour le voir tel qu'il est et comprendre son projet pour nous. Amen. Je vous invite à la prière et puis nous prendrons un chant. Seigneur, nous passons à travers la vie, chaque jour nous rapproche de toi, c'est une certitude pour nous, notre espérance s'accomplira par ta grâce. Et là, pour le moment, nous avançons, Seigneur, et nous pensons souvent avoir les yeux ouverts. Or, nous sommes un peu comme le serviteur d'Élisée, nous ne voyons pas la réalité des choses. Nous te prions, Seigneur, pour que chaque jour qui passe, nous puissions avoir les yeux ouverts. Ouverts sur ta gloire, sur ta puissance, sur ta grâce, sur ce qui nous entoure. Ouverts, Seigneur, pour que nous puissions savoir quel chemin véritablement, sur quel chemin nous marchons pour te rejoindre et pour être des témoins dans ce monde. Nous reconnaissons, Seigneur, les actions du malin dans notre vie, dans la vie de ton Église, mais plus que cela, Seigneur, nous voulons nous tourner vers toi et nous fonder sur ta victoire, victoire acquise chèrement à la croix. Eh bien, merci, Seigneur, d'être celui qui veut ouvrir nos yeux ce matin. Merci d'être celui qui veut ouvrir nos yeux chaque jour que tu créeras pour nous. Que nous puissions reconnaître, Seigneur, que tu es plus grand que tout ce qui peut être contre nous et nous attaquer. Merci pour la victoire que tu as acquise pour nous, afin que nous vivions pleinement. Selon ta grâce. Amen.